VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Il est 19h30 en temps universel. Bienvenue à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jacques Aristide dans la capitale américaine. Les titres que nous allons développer en ce jeudi 1er août 2019. En RD Congo, une quatrième personne atteinte d'Ebola à Goma. La frontière avec le Rwanda rouverte après 8 heures de fermeture d'après Kinshasa.
Depuis hier, c'était la suppose la plus totale, non seulement à Goma, mais aussi à Bukavu, où tous les bateaux qui ont voyagé la nuit d'avant ont été interdits d'accoster.
En Mauritanie, premier passage de relais de l'histoire du pays entre deux présidents élus avec la prestation de serment de l'ex-général El Ghazouani. Accord de paix historique au Mozambique pour mettre un terme à des décennies de conflits entre le pouvoir et la RENAMO. Aux États-Unis, duel entre Joe Biden et Kamala Harris lors d'un nouveau débat dans la course à l'investiture démocrate pour la présidentielle de 2020. Et puis, ne ratez pas vos rubriques habituelles, la Minute Éco et les sports dans 10 minutes. Le trafic a repris en début d'après-midi aujourd'hui entre la ville congolaise de Goma et la ville rwandaise de Gisenyi, 8 heures après la fermeture de la frontière consécutive à la découverte d'un nouveau cas d'Ebola dans ce carrefour de l'est de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'a déclaré la présidence congolaise dans un communiqué. Ekia Badou.
La ministre rwandaise de la Santé, Dr Jeanne Gashumba, a affirmé dans une conférence de presse à Kigali que la frontière n'a jamais été fermée et reste ouverte. Le deuxième malade d'Ebola décédé mercredi à Goma était un orpailleur qui travaillait dans la province de l'Ituri, mais vivait avec son épouse et leurs 10 enfants dans le quartier pauvre de Kiziba. Sa fille âgée d'une année et son épouse ont été testées positives, ce qui porte à 4 le nombre de cas signalés dans le chef-lieu du Nord Kivu. Un premier cas a été détecté le 17 juillet en provenance de Butembo. Le lendemain de son décès, l'OMS a élevé l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola au rang d'urgence sanitaire mondiale. Le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngasimbinje Kasi, a déclaré que les tests effectués sur 15 cas suspects se sont révélés négatifs. Depuis le 1er août 2018, 2607 cas ont été confirmés et il y a eu 1813 décès et 776 personnes ont été guéries de l'Ebola.
En Mauritanie, l'ex-général Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a été investi président de la République aujourd'hui. Alors que le pays a été secoué par de nombreux coups d'État entre 1978 et 2008, c'est la première fois que deux présidents élus se succèdent. Claire Morin-Gébourg.
Je jure de remplir mes fonctions en toute impartialité et dans le respect des lois et de la Constitution, a solennellement déclaré Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani lors de sa prestation de serment à Nouakchott. Élu lors de la présidentielle du 22 juin, il a été investi président de la République islamique de Mauritanie par le chef du Conseil constitutionnel. Il succède à son ami de longue date, le président sortant Mohamed Ould Abdelaziz. 11 chefs d'État africains ont fait le déplacement, dont le Sénégalais Macky Sall et les présidents des pays du G5 Sahel, engagés dans la lutte contre le djihadisme. S'adressant à la population, il a promis d'être le président de tous les Mauritaniens. Il a rappelé que la sécurité du pays était sa priorité, promettant de renforcer les capacités de l'armée et il s'est engagé à lutter contre les disparités sociales.
En Somalie, le maire de Mogadiscio est mort. Abdirahman Omar Osman avait été blessé la semaine dernière dans un attentat des militants islamistes Shebab dans la capitale et avait été admis dans un hôpital de Doha au Qatar. Par la voix de son porte-parole, le président somalien dit réprouver cette mort douloureuse et appelle à l'unité du pays pour vaincre les groupes terroristes qui portent atteinte, dit-il, à la souveraineté de la Somalie. Au Soudan, 4 manifestants ont été abattu lors d'un rassemblement à Omdurman, ville voisine de la capitale Khartoum. Les tirs ont eu lieu alors que des milliers de manifestants se sont rassemblés aujourd'hui dans plusieurs villes pour protester contre le meurtre cette semaine de 6 protestataires, dont 4 étudiants. La reprise des pourparlers entre les militaires et les meneurs de la contestation était normalement prévue ce jeudi soir pour régler les points en suspens d'un accord de transition. Le gouvernement américain a interdit l'entrée aux États-Unis du lieutenant général Anselem Namo Sanyatwe, récemment nommé ambassadeur du Zimbabwe en Tanzanie. L'interdiction s'applique également aux membres de sa famille. Le général à la retraite était le commandant de la brigade de la garde présidentielle zimbabwéenne. Il est accusé de violation flagrante des droits de l'homme. Jared Kushner est en Égypte. Le gendre et conseiller principal du président américain Donald Trump s'est entretenu aujourd'hui au Caire avec le président Abdel Fattah al-Sissi de la paix au Proche-Orient. Jared Kushner effectue une tournée dans plusieurs états de la région pour promouvoir le plan de paix de Washington, très controversé, rejeté par les Palestiniens et critiqué par la Jordanie. Hier, il a rencontré à Amman le roi Abdallah II de Jordanie et a eu des entretiens en Israël avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Au Mozambique, le président Filipe Nyusi et le chef de la RENAMO, Osufo Momad, ont signé un accord de paix aujourd'hui pour mettre fin à des décennies de conflits entre le pouvoir et l'ex-rébellion.
Cet accord de paix met un terme à un long processus de négociation initié par le leader historique de la RENAMO, Alfonso Dhlakama, décédé en mai 2018. Il intervient à quelques mois des élections générales prévues en octobre. La cérémonie retransmise par la télévision nationale s'est déroulée dans la base militaire de la RENAMO, dans le centre du pays, 27 ans après la fin de la première guerre civile. Il a été signé alors que le régime du président Nyusi combat une insurrection djihadiste dans le nord du pays qui a fait plus de 250 morts depuis octobre 2017. Peu après l'accession à l'indépendance du pays, la RENAMO a combattu le gouvernement dirigé par le Frelimo pendant 16 ans. Cette guerre civile qui a fait 1 million de morts a pris fin en 1992. La RENAMO s'est alors transformée en parti politique après la signature d'un accord de paix, ce qui a ouvert la voie à des élections multipartites en 1994.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La marmite politique qui bouillonne ici aux États-Unis. Joe Biden, favori de la course à l'investiture démocrate pour la présidentielle américaine de 2020, et Kamala Harris ont été aux prises sur la question du système de santé hier soir à Détroit lors d'un débat. Leurs rivaux en ont profité pour aiguiser les attaques contre les deux têtes d'affiche. Compte rendu, Eric Manirakiza.
L'ancien vice-président de Barack Obama avait livré une prestation assez terne lors du précédent débat en juin. En revanche, Biden, 76 ans, s'est montré cette fois-ci plus incisif face à l'assaut en règle de ses concurrents. Il a attaqué en premier une de ses principales rivales, Kamala Harris, sur ses propositions en matière de couverture maladie. La sénatrice noire est revenue sur le sujet qui avait été au cœur de leur premier affrontement. Si ces ségrégationnistes s'étaient imposés, je ne serais pas sénatrice aujourd'hui, lui a-t-elle lancé, et Barack Obama n'aurait pas été en mesure de vous nommer à ses côtés, a-t-elle ajouté. Le sénateur noir Cory Booker a reproché à Biden, qui fut sénateur pendant 36 ans, d'avoir mis son nom sur toutes les lois pénales depuis les années 70, responsable de l'incarcération de millions d'Américains. Joe Biden a également été trié pour son refus de dépénaliser les entrées clandestines aux États-Unis, à la frontière mexicaine en particulier. Tous les candidats avaient prôné dans leurs propos liminaires les valeurs de l'unité pour battre Donald Trump et restaurer l'âme de l'Amérique. Le premier vote de la primaire démocrate aura lieu dans le petit état de l'Iowa le 3 février 2020.
Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a eu un échange qualifié d'approfondi aujourd'hui avec son homologue chinois Wang Yi à Bangkok. Le tête-à-tête se tenu sur fond de confrontation entre les deux grandes puissances rivales, avec notamment le bras de fer commercial, dont le dernier round de pourparlers s'est achevé hier. Mike Pompeo a en revanche reconnu que ses rendez-vous jusqu'à demain vendredi dans la capitale thaïlandaise, où se tiennent des réunions ministérielles des pays d'Asie du Sud, ne serait pas l'occasion de renouer avec la Corée du Nord comme il l'espérait. Au Yémen, au moins 49 personnes, dont de nombreux policiers, ont été tuées aujourd'hui dans deux attaques contre des forces formées par les Émirats arabes unis à Aden. Hamza Ben Laden, l'un des fils d'Oussama Ben Laden, présenté comme son héritier à la tête d'Al-Qaïda, est mort. Les États-Unis ont contribué à l'opération visant à l'éliminer. D'après des informations du New York Times et de la chaîne NBC, Hamza Ben Laden était considéré comme un dirigeant clé d'Al-Qaïda. « Je ne veux pas faire de commentaires là-dessus », a répété à deux reprises le président Donald Trump. Interrogé hier par des journalistes, les deux médias n'ont pas de détails sur la date, le lieu ou les circonstances du décès. D'après le New York Times, il est intervenu dans les deux dernières années, mais les Américains ont mis du temps à le confirmer. Voilà donc pour les nouvelles qui dominent l'actualité en Afrique et ailleurs dans le monde. Eh bien, il est l'heure maintenant de faire un résumé de l'actualité économique en Afrique. Nous retrouvons Nani Talani.
Un des principaux syndicats nigériens du pétrole et du gaz naturel menace de déclencher une action revendicative pour résoudre un conflit de recrutement avec Chevron. Le syndicat accuse le groupe américain Chevron d'avoir licencié des centaines de travailleurs nigérians et d'avoir modifié des contrats en violation d'un accord. Le syndicat exige le retour au travail de tous les employés licenciés. Le gouvernement sénégalais ne compte pas céder face à l'opposition et la société civile qui appellent à rendre plus transparents les contrats d'exploitation du gaz naturel, rapporte l'agence Bloomberg. Cette pression est née à la suite d'un reportage de la BBC sur les conditions d'attribution des blocs gaziers. Le procureur a ouvert une enquête pour vérifier les informations contenues dans ce reportage. Terminons cette minute éco avec le groupe industriel chinois China Yunong Group qui envisage d'investir environ 200 milliards de francs CFA sur les 5 prochaines années au Burkina Faso dans des secteurs comme l'agriculture, la santé et les mines. Selon l'agence Ecofin, Yunong Group va aussi installer une usine pharmaceutique au Burkina Faso et en faire le centre de ses activités en Afrique.
Et maintenant, pour un tour d'horizon de l'actualité sportive, nous retrouvons Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jacques et bonsoir à tous.
D'abord, transfert. Nicolas Pépé rejoint Arsenal.
Oui, l'attaquant ivoirien de 24 ans qui évoluait depuis 2 ans à Lille s'est engagé à Arsenal pour une durée non communiquée selon les deux clubs qui ont officialisé le transfert d'un montant record pour les Gunners. Le club londonien a déboursé 80 millions d'euros hors bonus pour attirer l'ailier droit qui a inscrit 22 buts et délivré 11 passes décisive la saison dernière en Ligue 1 avec le LOSC. Arsenal a simplement évoqué un transfert record pour le club alors que Nicolas Pépé devient le joueur africain le plus cher de l'histoire.
C'est aujourd'hui que démarre la mission de Fatma Samoura à la CAF.
La secrétaire générale de la FIFA va évaluer l'instance africaine de football en pleine tourmente. La dirigeante sénégalaise a été nommée déléguée générale pour l'Afrique à partir du 1er août. Pendant 6 mois renouvelables pour superviser la CAF, elle est chargée d'effectuer un audit sur la gestion administrative et financière de l'institution qui a été secouée par des polémiques et scandales ces derniers mois dans la finale retour de la Ligue des Champions.
Et justement, Yacouba, la CAF va réexaminer cette finale qui fait polémique.
Oui, Jacques, l'organe dirigeant du football africain dit vouloir réunir incessamment ses instances compétentes pour statuer sur le sort de la finale retour polémique entre l'Espérance de Tunis et le Wydad Casablanca. Hier, le tribunal arbitral du sport lui a demandé de revoir sa copie. La finale retour disputée le 31 mai entre ces clubs de Tunis et de Casablanca, interrompue par les joueurs marocains furieux après une panne de l'assistance vidéo à l'arbitrage, devait être rejouée sur un terrain neutre selon une décision prise en juin par le comité exécutif de la CAF, mais le TAS a estimé hier que cette instance n'était pas habilitée à trancher.
Le syndicat des footballeurs dénonce l'engorgement des calendriers, Yacouba.
Effectivement, le syndicat mondial des footballeurs professionnels met en garde contre les risques liés à la multiplication des matchs et l'engorgement des calendriers dans un rapport qui compile les statistiques de plus de 500 joueurs sur les 12 derniers mois. La FIFPro met en exergue le cas du sud-coréen de Tottenham, Son Heung-min, qui a disputé 78 matchs au total cette saison, dont près des 3/4 sans avoir eu 5 jours de repos. L'ailier n'a par ailleurs eu aucun jour de congé pendant l'hiver selon la FIFPro. Le syndicat exhorte donc les ligues professionnelles à introduire une période de repos obligatoire de 4 semaines l'été et de 2 semaines l'hiver et à respecter au minimum 5 jours de repos entre chaque rencontre.
Merci Yacouba, à demain.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nous abordons maintenant notre tranche magazine dans Le Monde aujourd'hui. Jacques Aristide toujours avec vous. Merci d'être toujours avec nous sur VOA Afrique. Gros plan sur la République démocratique du Congo avec un décès et deux nouveaux cas de contamination au virus Ebola détectés en seulement 24 heures à Goma, le grand carrefour commercial de l'est de la RD Congo. La crainte de propagation régnait notamment à la frontière avec le Rwanda, fermée plusieurs heures ce jeudi. Un an après l'apparition du virus en République démocratique du Congo et une quinzaine de jours après la détection du premier cas dans la grande métropole du Nord Kivu, trois membres d'une même famille ont été touchés par l'épidémie, accroissant les risques de diffusion. Après le père décédé hier, puis une de ses filles âgée d'un an détectée la nuit suivante, sa femme a été testée positive aujourd'hui. Eddie Sango s'est entretenu avec le nouveau patron de la lutte contre Ebola en RD Congo, le docteur Jean-Jacques Muyembe.
C'est l'enfant donc du deuxième cas. Qui vivait, parce que le deuxième cas a passé 10 jours à domicile, donc c'est l'un de ses 10 enfants qui a été testé positif de contact au risque.
Y a-t-il pas risque qu'il y ait d'autres cas, parce que la personne a passé quand même beaucoup de temps avant qu'on le découvre, il est venu du côté de Bounia.
Oui. Bon, mais on suit ça de plus près, hein. D'ailleurs, il y a même sa femme donc qui est tombée malade aussi, qui est testée positif, donc c'est le quatrième cas.
Et maintenant que le Rwanda a fermé sa frontière, est-ce que cela peut avoir des conséquences? Est-ce que c'est lié à ces cas?
Certainement, c'est lié à ces cas, mais nous devons aussi respecter les recommandations que le directeur général de l'ONU avait données en déclarant Ebola comme une lésion de santé publique de portée internationale. Il y avait donc les recommandations qui demandaient aux pays voisins de ne pas fermer les frontières pour ne pas entraver le commerce et le déplacement des personnes. Mais de notre côté, nous faisons donc tout pour que l'épidémie ne soit pas transportée dans les pays voisins.
Peut-être qu'ils ont peur avec tout ce qui s'est passé, même à côté de Bukavu, donc ils ont peur par rapport à tout ça, hier.
Non, oui, mais ça c'est clair. Ce n'est pas un cas suspect, c'est simplement un contact qui a voyagé. Bon, mais tout ça, il faut gérer, hein, tout ça, il faut gérer. Il faut pas créer la panique. Mais un contact n'est pas dangereux. Il peut, au moment où il a des symptômes, ça devient, on doit donc bien contenir.
La frontière avec le Rwanda a donc été rouverte après 8 heures de fermeture d'après Kinshasa. À la frontière entre ces deux pays, notre correspondant à Goma, Charlie Kasereka, fait le point.
En moyenne, c'est autour de 45 000 personnes qui passent ici par jour dans les deux sens. Depuis l'annonce de la maladie à virus Ebola en RDC, les autorités congolaises ont installé des pots de lavage des mains comme ici à la petite barrière, l'un des passages utilisés par les petits commerçants de Goma et de Gisenyi au Rwanda.
Nous étions surpris ce matin en arrivant ici, voyant que la frontière est fermée. Il n'y avait même pas d'avertissement, pas de sortie ni entrée côté rwandais. Notre seul boulot, c'est de transporter les marchandises ici à la frontière. On nous dit que le motif de la fermeture serait Ebola.
Heureusement pour eux, vers 13h local, le Rwanda a ouvert ses postes frontières avec la RDC, soulageant toutes les femmes qui gagnent leur vie à cette frontière. Anifa, comme les milliers d'autres qui traversent tous les jours cette frontière, 3 à 4 fois par jour, c'est un soulagement.
Je suis très contente de voir la frontière rouverte. Je suis commerçante de la farine et je remercie les autorités.
J'étais là le matin, la frontière était fermée, nous avons tous été bloqués. Maintenant, au lieu de l'ouvrir, je dis merci aux autorités.
À Goma, la société civile locale demande les autorités sanitaires d'impliquer toutes les couches de la communauté pour mettre fin à cette épidémie. Placide Nzilama est cadre de la société civile ici à Goma.
Donc, je crois qu'il y a lieu de renforcer la sensibilisation avec toutes les corporations, des transporteurs, des vendeurs de vivres, donc toutes les corporations qui font des mouvements sur nos routes devaient être aussi associés à cette démarche-là de l'éradication de la maladie à virus Ebola.
Les autorités rwandaises ont ouvert la frontière Gisenyi-Goma en début d'après-midi, une fermeture momentanée motivée par les nouveaux cas de la maladie à virus Ebola à Goma. Le matin déjà, Kinshasa a regretté une décision unilatérale de la part des autorités rwandaises. Charlie Kasereka pour VOA Afrique, Goma.
Et quid de l'autre côté de la frontière au Rwanda? Eh bien, c'était la confusion ce matin à Gisenyi, la ville jumelle de Goma. Idriss Fall a joint sur place Jacques Kaoura, notre ancien correspondant.
Depuis hier, c'était la psychose la plus totale, non seulement à Goma, mais aussi à Bukavu, où tous les bateaux qui ont voyagé la nuit d'avant ont été interdits d'accoster et papy accoster à 12h au lieu de 6h30 comme d'habitude.
À Gisenyi aujourd'hui, comment ça s'est passé à Goma?
Donc je suppose qu'il y a pratiquement emballé les gens à Goma, qui a emballé les gens au Sud Kivu et plus particulièrement à Bukavu, a été vécu aussi à Gisenyi. La frontière a été fermée depuis 6h du matin, ce qui a un peu surpris la plupart des Congolais, mais aussi des expatriés qui habitent Gisenyi, et comme vous le savez, la plupart des expatriés qui travaillent dans les grandes ONG à Goma habitent Gisenyi et donc ne pouvaient plus traverser. Les activités ont été perturbées et il y a des milliers de femmes qui traversent des déportés qui n'ont pas pu exercer leurs activités et donc c'était la psychose la plus totale et les gens étaient dans une inquiétude, se demandaient quel sera le lendemain.
Apparemment, la frontière est rouverte depuis 13h, heure locale.
Justement, c'était notre soulagement. À 13h, les messages ont pu circuler. Comme la nouvelle technologie est au top aujourd'hui, les gens ont commencé à s'envoyer des messages sur WhatsApp, Facebook, pour dire voilà, la frontière vient d'être rouverte. C'est comme ça que le mouvement a repris, mais timidement, parce que
la présence du virus, en quoi ça a changé les habitudes des gens, les relations interpersonnelles?
Ce qui est d'être à Goma ou être à Butembo ou être même ici, la manière de se saluer aujourd'hui, on se salue plus à la main, on ne se touche plus, donc on ne s'embrasse plus. Donc tout a été compliqué, quoi. Tout le monde suspecte tout le monde. L'enfant suspecte ses parents, les parents suspectent les enfants, les amis, les amitiés, donc voilà, c'est compliqué, quoi. Qui pouvait croire que la frontière entre le Congo et le Rwanda pouvait être fermée, et plus particulièrement dans une ville comme Gisenyi, fermée parce qu'il y a des cas d'Ebola. Donc c'est la suspicion de tous côtés, quoi.
Le journaliste Jacques Kaoura, qui habite également Gisenyi au Rwanda.
Retrouvez VOA Afrique sur Top Congo sur 88.4 FM à Kinshasa.
Sa précoce revendication de victoire lui avait valu en juin dernier d'être dépeint par ses adversaires en incurable putschiste. Mais l'ex-général Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, en prêtant serment ce jeudi, a parachevé la première transition présidentielle pacifique en Mauritanie, où les coups d'État furent longtemps la règle. Après, d'après ses propres termes, une décennie bénie de pouvoir de son compagnon d'armes, Mohamed Ould Abdelaziz, rencontré il y a 40 ans à l'Académie royale militaire de Meknès au Maroc, il lui a succédé devant quelques 5000 invités, dont des chefs d'État africains. La cérémonie s'est déroulée aujourd'hui au Palais des Congrès à Nouakchott, où nous retrouvons notre correspondant Mohamed Diop.
10 chefs d'État africains ont fait le déplacement. Il s'agit de ceux de la Côte d'Ivoire, de la Gambie, de la Guinée-Bissau, de la Guinée-Conakry, de la République du Congo, du Mali, du Niger, de la République arabe sahraoui, du Sénégal et du Tchad. Deux pays du Maghreb, à savoir l'Algérie et le Maroc, ont respectivement envoyé leur premier ministre Nourdine Bedoui et Saad Din Al-Ousmani. Il y a également le ministre émirati de la tolérance, Sheikh Nahyan Ben Moubarak Al-Nahyan, le ministre omani de la justice, Abdelmalek Ben Abdallah Ben Ali El-Khalili, et un conseiller de l'émir du Koweït, Sheikh Fahd Saad Abdallah Salem, venu des pays du Golfe. Concernant les pays occidentaux, on note la présence du ministre espagnol des Affaires étrangères, Joseph Borrell Fontelle, et du président de la Commission de la Défense à l'Assemblée nationale française, Jean-Jacques Bridé, Il y a aussi la présence du vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhail Bogdanov. Et parmi les présents, il y a Mohamed Ben Shambas, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Ils assistent à l'installation de l'ex-chef d'état-major des armées, Mohamed Ould Ghazouani, à la tête de la République islamique de Mauritanie, installation qui sera faite par le Conseil constitutionnel. Mohamed Diop, Nokshot, VOA, Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Et avant de clore le monde aujourd'hui, direction Tchad. Dakuna Espoir, c'est une association culturelle qui œuvre depuis plus de 4 ans pour la récupération des enfants de la rue et des enfants démunis de N'Djamena. Les membres de cette communauté initient des danses dans les espaces publics comme un moyen d'attraction de ces enfants pour les placer dans un centre d'accueil. Le correspondant de VOA Afrique, André Kodmajingar, s'est rendu dans le quartier général de ces enfants. Je vous propose son reportage.
Nous sommes dans le centre d'accueil et de réinsertion sociale des enfants et jeunes démunis situé dans un quartier de la capitale. Parmi les quelques 500 enfants de la rue et de jeunes démunis sensibilisés à travers la danse, quelques-uns ont accepté d'être placés dans ce centre.
Aujourd'hui, au centre, il y a 62 enfants qui viennent de réinsérer déjà 10 dans leurs familles respectives. Et donc là, actuellement, ils sont 52.
Ali Bandavokojut, directeur artistique de l'association Tchad Estar. Pour lui, il n'y a pas que de la danse au centre d'Akuna Espoir qu'il dirige, mais aussi de la formation professionnelle dans les domaines tels que la menuiserie, la couture et la mécanique pour aider ces jeunes à se prendre en charge dans l'avenir.
Il y a 15 enfants qui sont en formation professionnelle et aussi il y a des enfants qui ont fait 3 ans dans la rue et donc on les a aussi inscrits à l'école. Sur les 27 inscrits, il y a 24 qui passent en classe supérieure. Il y a 3 jeunes qui sont aussi inscrits au lycée. 2 qui passent en classe supérieure et ces enfants viennent pas seulement de N'Djamena. D'autres qui viennent aussi du Cameroun et même du Nigeria. Ceux qui ont fui la guerre, qui se sont réfugiés dans la rue, on les a récupérés.
Les jeunes filles dont l'âge varie entre 10 et 15 ans, pensionnaires du 10 centre à ma VOA Afrique, qu'elles ont été victimes de maltraitance, de divorce et de négligence familiale.
J'ai des problèmes avec ma tante paternelle. J'ai perdu ma mère quand j'avais 4 ans et mon père, je ne les connais pas. Ils sont séparés avec ma mère avant qu'elle m'accouche. Larry n'a jamais enfanté. On vient tous d'une famille.
Avant, je suis au Nigeria avec mon père, avec ma mère. Et puis ma mère, elle est malade. On est venu au village pour la soigner. Elle est décédée. Mon oncle, il m'a amené ici, sa femme-là. Elle me maltraite tout. Je suis sorti dans la...
Si les filles se retrouvent dans la rue par contrainte, les garçons, quant à eux, ont d'autres ambitions.
J'ai été attiré par les amis qui sont dans la rue et je me suis installé avec eux. J'ai même arrêté les études au niveau de 3e. Ça fait déjà un an et 2 mois que je suis ici. Et actuellement, j'ai fait la couture. Je suis très content parce que ma vie a été changée.
Je me suis retrouvé dans la rue à l'âge de 6 ans et j'ai fait déjà 10 ans dehors. Moi, je fais beaucoup de vols. Aujourd'hui, j'ai laissé toutes les choses qui sont mauvaises et je suis en formation d'immuniser.
La représentante de l'UNICEF au Tchad, Dr Viviane Van Stetegem, qui a rendu visite à ses pensionnaires, conseille aux responsables du centre de pensée à reconstituer le lien familial de ses enfants.
Même quand ce lien familial peut être assez compliqué, l'enfant devrait appartenir à une famille et que les enfants qui appartiennent à cette famille de Dakuna devraient être un petit peu l'exception. Et puis nous, on va voir comment les aider de manière plus précise.
André Kodmajingar, N'Djamena, VOA Afrique.
Merci, merci les enfants, merci vous.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Et voilà, Le Monde aujourd'hui prend fin ici. L'émission a été réalisée par Michel Joseph. Journiak Wojtek nous a gratifié de son soutien technique. Mille merci à vous, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce soir. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous souhaite une excellente soirée sur VOA Afrique. Rendez-vous également sur voaafrique.com. Allez également sur notre page Facebook de VOA Afrique. Voilà, à très bientôt. Take care.